Radio Classique, les spécialistes.
7h40 sur Radio Classique, les spécialistes Emmanuel Faux, Dimitri Pavlenko et Bernard Sananès, le patron des labs avec un sondage qui est encore tout chaud. Le sondage et le baromètre Radio Classique, les échos sur la confiance et la popularité d'Emmanuel Macron. Bernard, finalement, un mois de difficultés pour le gouvernement, pour l'exécutif, et Emmanuel Macron qui s'en tire plutôt bien puisqu'il progresse de 2 points.
Oui, cette relative stabilité, plus 2 pour Emmanuel Macron, moins 1 pour Édouard Philippe, est en fait une relative stabilité en trompe-l'œil. Ça masque des choses très différentes. Alors, il y a une bonne nouvelle pour l'exécutif, vous l'avez dit, c'est qu'il ne décroche pas dans la crise. On aurait pu attendre moins 4, moins 5, au vu de la force du mouvement social. Mais en fait, cela s'explique facilement parce que, comme depuis le début du quinquennat, son socle électoral est très solide. Il progresse même chez les électeurs de droite. En revanche, quand on regarde...
Assez nettement d'ailleurs.
Assez nettement, plus 5 points. Et on a maintenant plus d'un électeur sur deux qui avait voté François Fillon en 2017 qui lui fait confiance. Ce socle politique, il est là. En revanche, quand on regarde les ventilations, comme on dit sur un plan sociologique, là on voit bien que c'est chez tous les actifs, il est en recul, légèrement, mais en recul, Emmanuel Macron.
Oui.
Et surtout, il y a une donnée qui peut inquiéter le président de la République. C'est que, vous savez, dans ce baromètre, on pose la question, est-ce que vous avez confiance ou pas confiance, mais est-ce que vous avez plutôt pas confiance ou pas du tout confiance? Et la part de ceux qui expriment cette opinion la plus tranchée, la plus négative, ceux qui font pas du tout confiance au président de la République, remonte depuis 3 mois. Elle est aujourd'hui à 39%, près de 4 Français sur 10. Ces 4 Français sur 10, eux, ils ne sont pas, j'allais dire, dans l'opposition, ils sont véritablement dans l'hostilité au chef de l'État.
Alors, en ce qui concerne le classement des personnalités, je dirais ça reste stable, même si Nicolas Hulot décroche légèrement. 1 Hulot, 2 Sarkozy, 3 Le Drian, 4 Bertrand, 5 Baroin. Il y a quand même pas mal de personnalités de droite finalement dans ce baromètre concernant la popularité des personnalités.
Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui on le voit bien et c'est un peu la même chose finalement que le président de la République. Tout ça est assez figé.
Ouais.
On a l'impression que du côté de l'exécutif, du côté des personnalités d'opposition, l'opinion ne les départage pas et qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. D'ailleurs, c'est aussi un signe en plein conflit social avec une forte opposition. Les principaux opposants politiques, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ne progressent que très légèrement.
Alors justement, puisque vous parlez du conflit social, il y a ce sondage pour l'Institut Montaigne, extrêmement intéressante, cette enquête sur les Français et les syndicats. 6 Français sur 10, eh bien, estiment que les syndicats sont davantage un élément de blocage que de dialogue.
Oui, c'est un chiffre. Alors, on est en pleine crise sociale avec des perturbations et c'est 8 points de plus qu'il y a 3 mois quand on avait posé cette question. Donc, on voit bien que ça tend un peu les choses. Ce qui est intéressant et ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, à l'exception des salariés du public, on voit bien que dans toutes les catégories, même par exemple chez les salariés du privé, il y a ce sentiment que les syndicats sont plutôt un élément de blocage.
Alors, dernier point important, les Français renvoient finalement dos à dos dans cette enquête syndicats et gouvernement concernant la réforme des retraites et la crise de la réforme des retraites.
Oui, ça cache un constat. Ce constat, c'est celui pour l'opinion, pour une majorité de l'opinion, que finalement la démocratie sociale ne fonctionne pas très bien. Et on le voit dans cette crise des retraites et on le voit dans cette enquête. On n'écoute pas assez les syndicats. Sous-entendu, si on les avait plus écoutés, on aurait pu éviter la crise. Mais en même temps, ils s'opposent trop, avec sans doute derrière ça la critique d'une politisation de certains syndicats.
Merci Bernard. Bernard Sananès, le président des labs. Tout de suite, la direction, eh bien la Russie. L'hymne russe qui nous permet d'aborder les changements annoncés mercredi par Vladimir Poutine, un changement de Premier ministre, mais aussi de nouvelles prérogatives pour le Parlement. Emmanuel, pourquoi ce virage et pourquoi maintenant?
Eh bien, parce que Renaud, l'heure a sonné. C'est le début de la fin de l'ère Poutine. Il lui reste 4 ans de mandat et Vladimir Poutine veut être l'acteur de la fin de sa présidence et non pas le spectateur. Ça, c'est pour le choix du moment. Vladimir Poutine donne le top départ de la transition vers l'après-Poutine. Alors, en même temps, tout homme fort qu'il est, avec une popularité au zénith à 70% encore aujourd'hui, le président russe a senti qu'il fallait bouger car la société commence à s'impatienter. La population ne voit pas son pouvoir d'achat augmenter, la croissance russe reste trop faible, la démographie est en berne, et il l'a souligné d'ailleurs dans son grand discours annuel, d'où ce virage institutionnel, mais aussi le virage politique, avec un plan pour l'école, des milliards d'euros de dépenses sociales, bref, la promesse que la vie quotidienne va s'améliorer, d'autant qu'il y a des élections législatives en 2021. et que le parti du Kremlin Russie Unie a vu sa cote de popularité chuter de 54% à 33% en 4 ans. Il y a donc un certain désamour avec le pouvoir et le président russe veut éviter que cette impatience ne se transforme en rejet de sa propre personne.
Emmanuel, mais quel est l'enjeu pour Vladimir Poutine ?
L'enjeu, c'est qu'il va quitter le Kremlin dans 4 ans, ça c'est le calendrier, mais qu'il ne veut pas quitter la scène. Vous vous rendez compte que nous sommes en janvier 2020, c'est-à-dire que Vladimir Poutine a fêté il y a quelques jours le 20e anniversaire de son entrée au Kremlin après les démissions de Boris Yeltsin, je m'en souviens, j'étais correspondant à Moscou à l'époque, et 20 ans après, eh bien, le président russe n'a aucun rival, aucun concurrent, aucun dauphin. Dmitri Medvedev, qui a été son premier ministre pendant 11 ans au total, aurait pu jouer ce rôle, il lui a même gardé le fauteuil au chaud au Kremlin, mais pas de chance, avant-hier, exit le loyal Medvedev, devenu impopulaire. Du coup, le chef du Kremlin a décidé de nommer un haut fonctionnaire au poste de Premier ministre, Mikhail Mishustin, 53 ans, c'est l'ex-patron des services fiscaux qu'il a su moderniser, donc un profil de technocrate sans ambition politique, ce qui permet à Poutine de garder la main. En même temps, le président russe amorce une remise en cause de la toute-puissance du Kremlin en décidant les contours d'une présidence moins absolue, mais pas pour lui, pour ses successeurs. Et c'est notamment le pouvoir qu'aura le Parlement de désigner un Premier ministre. Aujourd'hui, l'Assemblée n'est qu'une chambre d'enregistrement. Et puis il y a cette nouvelle règle d'or, vous savez, pas plus de 2 mandats présidentiels en tout, alors qu'aujourd'hui Vladimir Poutine en est à son 4e mandat. Ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine, qui n'a que 67 ans, envisage de se réserver un rôle d'arbitre pour après. Ensuite, il entrera dans les listes d'histoire.
Merci Emmanuel. Après la Russie direction, eh bien la Chine et les États-Unis avec vous Dimitri, un nouvel accord.
Oui, ce nouvel accord et puis alors surtout c'est l'information de la nuit, c'est l'Union européenne qui promet de saisir l'OMC si cet accord commercial préliminaire signé mercredi entre Pékin et Washington, entraîner des distorsions commerciales au détriment des entreprises européennes. Alors, faut lire entre les lignes, c'est que cette mise en garde, cette menace formulée par les Européens, qui la formule, ça n'est pas Ursula von der Leyen depuis Bruxelles, non, c'est Nicolas Chapuis, c'est l'ambassadeur de l'UE en Chine, il le dit à la sortie d'une invitation au ministère des Affaires étrangères, donc vous voyez, on y va quand même avec grande prudence. On dit les choses, mais pas trop fort, histoire de ne pas froisser les Chinois ni les États-Unis. D'ailleurs, ça se vérifie, cette thèse de la prudence des Européens. Hier, Phil Hogan, le commissaire européen, était en visite pendant 3 jours à Washington et il a dit « Oui, il va falloir qu'on étudie ce texte de près parce qu'on se pose quand même pas mal de questions sur les conséquences que cet accord va avoir lieu. » Parce que moi, je vais vous dire clairement les choses. Je suis pas diplomate européen, donc je peux me le permettre.
Vous êtes journaliste à Radio Classique, c'est déjà énorme.
Voilà, et on se demande quand même quelle est la place des Européens aujourd'hui face à deux géants, les États-Unis et les Chinois, qui sont clairement partisans d'une relation bilatérale exclusive qui va littéralement piétiner la libre concurrence dont l'Europe se fait le chantre. C'est simple, quand les Chinois s'engagent à acheter 200 milliards de biens aux Américains, des biens agricoles, des biens industriels, ce sont autant de choses qu'ils n'achèteront pas sur le marché libre, et donc potentiellement aux Européens. Et puis en face de cela, pourquoi aussi cette prudence des Européens ? Parce qu'il y a cette peur des sanctions américaines qui pèsent très lourd. Vous savez, il y a le conflit déjà sur les aides européennes, les aides des États européens à Airbus. Ça se traduit par des difficultés, des tarifs douaniers supplémentaires pour le vin, notamment le vin français, le fromage à l'entrée aux États-Unis. Et puis il y a là cette grande menace, c'est celle d'une taxation de l'automobile. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'hier, le Washington Post affirmait que l'administration Trump aurait menacé les Européens de taxer les importations de voitures, notamment les voitures allemandes, si on ne tapait pas plus fort sur la table vis-à-vis des Iraniens. C'est démenti ce matin par les Européens, mais de manière extrêmement molle.
Voilà, le coup de gueule, on peut le dire, de Dimitri ce matin, et qui demande aux Européens eh bien, de se bouger, et ce qui est quand même un message, évidemment, qui n'est pas évident, mais nous sommes de tout cœur avec vous, mon cher Dimitri, sur, j'allais dire, presque cet édito économique que vous signez dans Les Spécialistes. Merci Bernard, merci Dimitri, merci Emmanuel, 7h48 sur Radio Classique. Dans un instant, le spécialiste du journal imprévisible tous les vendredis, Marc Bourreau, à tout de suite.